L'intervenante suivante, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va parler maintenant d'open access et de réseaux sociaux. Donc, la présentation sera donnée par Aline Bouchard, qui travaille à l'École nationale des chartes, l'URFIST de Paris.
Merci. Bonjour à tous et merci à Couperin pour cette invitation. Donc, il m'appartient donc d'intervenir sur la question de l'open access et des réseaux sociaux et de voir également dans quelle mesure les réseaux sociaux appartiennent ou pas à cette vague de l'open science. Alors, bien sûr, si je vous parle de Facebook, de LinkedIn, d'Academia, de ResearchGate, tous ces services qui permettent en fait de créer un profil en ligne, éventuellement d'ajouter des publications et de réseauter, vous les connaissez. Les doctorants les connaissent, les chercheurs les connaissent. Des études récentes ont été faites qui montrent que 3/4 des chercheurs utilisent les réseaux sociaux, les médias sociaux, pour faire de la recherche. Mais en regardant un peu plus près les détails, on se rend compte que les réseaux sociaux académiques, c'est-à-dire les réseaux sociaux spécifiquement pour les chercheurs, sont quand même un peu moins connus et un peu moins utilisés. La dernière étude de Couperin, qui a été faite fin 2014, montre que 42% des chercheurs français sont présents sur ResearchGate, Academia majoritairement. Alors bien sûr, il y a des différences selon l'âge, la discipline, mais reste quand même que les réseaux sociaux académiques sont quand même moins utilisés que les réseaux sociaux plus classiques, dans un cadre professionnel. Néanmoins, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces réseaux sociaux académiques s'insèrent dans l'ensemble du cycle de la production scientifique du chercheur. Depuis la production de contenu, donc certains, par exemple, estiment que les réseaux sociaux académiques représentent l'avenir de la veille scientifique, avec des systèmes d'alerte, de suggestions automatiques qui permettent assez facilement de découvrir de nouveaux articles, de nouveaux collègues, par exemple. Ces services proposent aussi, au niveau de la production d'informations, toute une série, parfois, d'annotations de documents, de services de questions-réponses, d'échanges. Du côté de l'évaluation, ces services proposent souvent des métriques, nombre de publications vues, nombre de téléchargements, ce genre de choses, assez classiques. Parfois, comme c'est le cas pour ResearchGate Academia, ils ont mis en place assez récemment même des services de review, alors sous différents noms, mais des services qui permettent en fait des reviews par les pairs d'articles qui sont déposés sur ces plateformes. Autre type de service que déploient ces réseaux sociaux, c'est tout ce qui concerne la diffusion. Ces réseaux sociaux sont connus majoritairement comme des outils sur lesquels on peut publier des publications, des données de recherche, des résultats négatifs, etc. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, ResearchGate peut permettre d'attribuer un DOI aux publications qui sont déposées sur la plateforme. Autre intérêt aussi pour le chercheur, c'est bien sûr d'avoir sur Internet et facilement indexé par les moteurs de recherche, une présence en ligne, un profil indépendant de l'institution qui permet de s'afficher clairement comme chercheur et spécialiste d'une discipline. Enfin, alors là, ça dépend des réseaux sociaux. Il propose parfois aussi un certain nombre d'autres services aux chercheurs, donc parmi lesquels des job boards, des outils de visualisation, voire des achats d'articles éventuellement. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les évolutions actuelles de ces derniers mois des réseaux sociaux, alors je parle majoritairement de ResearchGate et d'Academia, mais on peut citer MyScienceWork par exemple, en fait visent à chercher de plus en plus à développer des services qui s'insèrent au plus près de l'activité du chercheur, sous couvert de partage. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est est-ce que ces services relèvent véritablement de l'open access ? Parce que je sais qu'on a parlé des réseaux sociaux plusieurs fois dans ces journées Couperin. Alors, si on reprend les termes du texte d'Horizon 2020 qui permet de définir quels sont les réservoirs qui seront retenus pour permettre la publication des articles. Donc, je cite, « Un réservoir pour publication scientifique est une archive en ligne. Les archives institutionnelles, thématiques ou centralisées sont toutes acceptables. Par contre, les bénéficiaires ne doivent pas choisir un entrepôt qui demande qu'on lui accorde des droits sur les publications déposées et en entrave l'accès. » Je répète, « qui lui accorde des droits sur les publications déposées et en entrave l'accès. » Eh bien, typiquement, les réseaux sociaux académiques demandent qu'on leur accorde des droits et entravent l'accès. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte un peu plus large de ces réseaux sociaux académiques. Ce ne sont clairement pas des philanthropes, ce sont des sociétés commerciales for profit. Généralement, leur modèle commercial, pour l'instant, est assez simple. Ils obtiennent des fonds auprès de Business Angels. Ils fonctionnent exactement comme Facebook, Twitter, Google. Alors, pour la petite histoire, ça peut représenter des millions de fonds levés lors de ce genre d'initiative. La contrepartie pour le chercheur, c'est que l'inscription est gratuite. Join for free. Par contre, quand le chercheur signe sur ce genre de service, généralement, vous savez, on ne lit jamais les conditions générales d'utilisation, mais en fait, sur un certain nombre de services, c'est écrit que vous accordez une licence perpétuelle, mondiale, irrévocable, etc. C'est clairement écrit noir sur blanc, par exemple, dans les terms d'Academia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de licence ? Ben, c'est tout simplement que le service se réserve le droit, par exemple, de rassembler des articles qui seraient déposés par les chercheurs pour en faire des publications, ou utilise certaines données pour faire du text and data mining. Autre problème posé par ces services, donc à part qu'on leur accorde des droits, c'est la question de « on entrave l'accès ». Alors en fait, ces services ressemblent de plus en plus à des boîtes noires. Alors qu'est-ce que c'est que ces boîtes noires ? Déjà, pour un certain nombre d'entre eux, il y a des conditions d'inscription. Typiquement, pour ResearchGate, vous devez avoir une adresse institutionnelle pour pouvoir vous créer un compte sur le service. Autre exemple de cet aspect boîte noire, le fait que vous êtes parfois obligé de vous créer un compte pour obtenir certaines informations. Plus de listes de chercheurs, l'accès aux moteurs de recherche, par exemple. Enfin, ces services posent un certain nombre de problèmes puisque vraiment ils retiennent un peu les informations que les chercheurs leur donnent volontairement puisque, par exemple, ils ne proposent pas d'API qui permettrait d'extraire les informations assez facilement. Sans compter aussi des métadonnées souvent assez pauvres. Enfin, dernier élément que pose véritablement problème pour ces réseaux sociaux, c'est la question de leur viabilité. Si je vous cite les réseaux sociaux académiques qui étaient connus en 2008, vous n'allez pas les connaître, probablement, parce qu'en fait, ils n'existent plus. En gros, si on regarde le paysage et les évolutions des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est un petit peu un cimetière des éléphants. Tout simplement parce que c'est un monde concurrentiel et en fait, seuls quelques-uns survivent. Et ce n'est pas forcément ceux qui proposent le plus de services innovants qui survivent, en fait. Du coup, pour résumer, ces réseaux sociaux académiques ne proposent pas les conditions d'accès libres, pérennes, gratuits, ouverts de l'open access. C'est pour ça que certains ont tendance à plus parler de free access que d'open access en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ça rappelle bien sûr le join for free de l'inscription. Néanmoins, est-ce que ces réseaux sociaux ne relèvent pas quand même d'une ouverture de la science à un monde plus large, genre des bases de données payantes, par exemple, ou des abonnements payants ? Les faits sont là, de toute façon. Il est prouvé, des études le montrent, que les chercheurs publient de plus en plus d'articles en texte intégral sur leur profil de réseaux sociaux académiques. Ce qui, bien sûr, favorise la diffusion de la recherche académique, indépendamment des moyens financiers des établissements, des pays, par exemple. C'est aussi un excellent moyen de toucher la recherche privée. En outre, la taille même de ces réseaux, donc pour Academia, c'est à peu près 27 millions de comptes, pour ResearchGate, c'est à peu près 7 millions de comptes, font qu'on a forcément des moyens de favoriser le développement multidisciplinaire et dépasser le cadre strict des institutions. Donc, on peut dire que, à l'instar de l'open access, les réseaux sociaux sont des moyens d'accélérer la visibilité de la science dans la communauté scientifique, voire au-delà de la communauté scientifique stricte. Néanmoins, il est évident que cette open science des réseaux sociaux académiques reste quand même une open science en trompe-l'œil est extrêmement ciblée. Alors pourquoi en trompe-l'œil ? Tout simplement parce que là aussi, c'est l'étude de Couperin qui nous le montre, confirmée par d'autres études. Seulement 27% des chercheurs dans l'étude Couperin déclarent utiliser les réseaux sociaux véritablement pour partager avec les autres chercheurs. En fait, la première motivation des chercheurs pour utiliser ce genre de service, c'est être visible. En gros, si on utilise les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que, par exemple, les pages personnelles des établissements ne sont pas satisfaisantes. Si on utilise vraiment les réseaux sociaux, c'est être visible, être visible, être visible. Et si on met ses publications en ligne, c'est bien pour rendre visible son travail et pas forcément dans une démarche volontaire d'open science, de diffuser la science à tout le monde. En outre, je vous disais, c'est une open science plutôt ciblée. Dans la mesure où, si on regarde véritablement les types d'informations qui sont publiées sur ces sites, eh bien, ce sont avant tout des publications. Il y a très peu de données de la recherche qui sont diffusées. Il y a très peu de supports de formation, supports d'intervention, par exemple. Un modèle finalement assez classique de liste de publications. La plupart des services mis en œuvre par les réseaux sociaux, je vous parlais des services de review par les pairs, par exemple, ne décollent pas. Tout simplement parce qu'il y a déjà sur le marché suffisamment d'endroits et de lieux pour ce genre de discussion, de travail collaboratif, et les réseaux sociaux, finalement, sont arrivés peut-être trop tard sur ce genre de segment. Surtout, en fait, ça s'explique aussi parce que ces réseaux sociaux sont avant tout des outils individuels. Il n'y a pas de place sur ce genre de service pour le travail collaboratif. Par exemple, Academia ResearchGate ont fermé, après les avoir lancés, des services qui permettaient du travail en groupe. De la même façon, les institutions ne peuvent pas se créer de profil sur ces réseaux sociaux. En fait, contrairement à LinkedIn ou Facebook, où vous pouvez avoir des pages d'établissement ou des pages fans, vous pouvez n'avoir qu'une page personnelle, nom, prénom, etc. Les institutions sont vraiment exclues de ce genre de service, sauf si elles apportent de l'argent. En gros, si par exemple elles veulent mettre en valeur des offres d'emploi sur ResearchGate, où là il faut payer, ou si elles veulent utiliser ce genre de plateforme pour proposer un entrepôt d'archives spécifiques institutionnelles, comme c'est le cas du service Polaris de MyScienceWork. Alors, là vous vous dites, bon d'accord, là elle nous présente un schéma assez facile, d'un côté les chercheurs, de l'autre les réseaux sociaux académiques. Mais en fait, bien sûr, la situation est un petit peu plus compliquée puisque c'est plutôt une partie à trois qui se déroule. Les chercheurs, les réseaux sociaux et les éditeurs, qu'il ne faut pas oublier dans ce paysage. Alors, donc moi je vais dire le grand mot qu'Antonin n'a pas osé tout à l'heure prononcer, Elsevier, mais ce n'est pas les seuls, bien sûr. La position des éditeurs a été assez fluctuante et peut-être un petit peu attentiste. Dans un premier temps, les éditeurs n'ont pas spécialement pris en compte la question des réseaux sociaux académiques. Ils savaient que ça existait, mais ils ne les mentionnaient pas particulièrement dans les conditions de mise en ligne des publications, par exemple. On a eu après un petit frémissement avec des demandes de retrait, notamment d'Elsevier, mais ce n'était pas les seuls, sur des publications qui étaient mises malgré le non-respect du droit d'auteur. Et depuis le début de l'année, on a vu une position un petit peu plus volontariste de la part de ces réseaux sociaux, D'une part, la volonté de se, de ces éditeurs, la volonté de se rassembler pour imposer des principes communs par rapport aux réseaux sociaux. Et d'autre part, éventuellement, alors là, c'est le cas d'Elsevier, qui est vraiment leader sur ces questions, se rapprocher des réseaux sociaux pour proposer l'accès à leurs services. Alors, dans le cas d'Elsevier, par exemple, ils sont rapprochés de MyScienceWorks pour donner accès à Science Direct dans le moteur de recherche de MyScienceWorks. Évidemment, on se doute bien que les éditeurs, en fait, ont bien perçu le potentiel commercial et stratégique des réseaux sociaux et ont bien conscience aussi des évolutions dans les nouveaux modes de diffusion scientifique. Dernière question, finalement, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont un risque ou une opportunité pour l'open access et pour l'open science? Parce que je vous ai dit partie à trois, les chercheurs, les réseaux sociaux académiques et les éditeurs. Mais en fait, c'est plutôt une partie à quatre, puisqu'il faut rajouter les institutions, que ce soit les laboratoires, les établissements ou, par exemple, des consortiums. Alors, il y a deux façons de voir la chose. Les réseaux sociaux sont un risque et il faut faire contre, parce que ça favorise la privatisation des données, de la recherche, etc. Ça, c'est le constat de base, mais il faut certainement le dépasser. Et plutôt voir les réseaux sociaux comme une occasion, une opportunité de favoriser l'open access. Alors, à mon avis, il y a trois façons de voir ça, trois opportunités. L'accompagnement des chercheurs, la création de services et enfin un renforcement de l'open access. Alors, premier élément, donc, accompagnement des chercheurs. Plusieurs études remarquent la totale ignorance des chercheurs sur la question des droits afférents aux publications et aux données personnelles que l'on dépose sur ces plateformes. En fait, les réseaux sociaux peuvent souvent être considérés comme un produit d'appel sur des questions importantes. Les droits de l'édition, la communication scientifique, l'identité numérique. Et surtout, un moyen aussi, via de l'information, via de la formation, de montrer quelles sont les autres possibilités, les systèmes alternatifs et complémentaires. Par exemple, dans le domaine de la publication, les archives ouvertes, mais dans le domaine de la visibilité du chercheur, les systèmes comme ORCID dont on parlait tout à l'heure. Et la question est d'autant plus intéressante que les études montrent que ce sont surtout les jeunes chercheurs qui sont les plus présents et les plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de formation et d'information dès le niveau des doctorants. Deuxième opportunité, la possibilité de créer ou d'améliorer des services déjà existants. Alors, si je vous demande à votre avis quel est le média social considéré comme le plus utile par les chercheurs, peut-être que peu d'entre vous me répondront que c'est Twitter. Et des études montrent que, quand on interroge les chercheurs, ils considèrent que c'est Twitter le plus utilisé et le plus utile pour leurs recherches. Et les réseaux sociaux académiques sont considérés comme moyennement utiles. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux académiques, c'est surtout pour être visible, faire un peu de veille. Alors que Twitter, par sa forme un petit peu protéiforme, permet beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de collaboration, finalement, que les réseaux sociaux académiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le classement du Ranking Web of Repositories, qui en fait fait un classement régulier des plateformes de dépôt d'archives ouvertes notamment. Et à partir de 2014, ils ont commencé à insérer Academia et ResearchGate dans leur classement. Un petit peu au scandale de la communauté, puisqu'on a bien vu que ce n'était pas des outils d'open access. En fait, ils expliquaient que c'était avant tout dans un but pédagogique pour montrer que ces réseaux sont de plus en plus considérés par les chercheurs, à tort, comme des plateformes de dépôt. En fait, cette prise en compte de ce genre de plateforme dans le Ranking Web of Repositories montre aussi les limites actuelle de l'offre des services d'archives ouvertes notamment. Et donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux académiques sont également un excellent moyen de voir quels sont les, ce que Couperin appelle le réseau social idéal, celui où le chercheur trouverait tout ce qu'il veut, avec en plus des points d'interopérabilité pour arrêter de multiplier la création de profils sur tous les comptes qui se déploient, la possibilité aussi d'avoir des outils non propriétaires, avec des fonctions sociales, mais aussi des groupes de travail ou l'annonce d'événements, par exemple. Enfin, troisième opportunité, la question du renforcement possible de l'open access à cause ou grâce aux réseaux sociaux académiques. Alors, je finirai ma présentation par une interrogation, en fait, plus qu'une réponse totalement définitive sur la question, en citant les termes d'un journaliste qui a écrit sur le blog The Scholarly Kitchen et qui disait « Si plus d'éditeurs veillaient à faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle vis-à-vis des réseaux sociaux académiques, cela pourrait conduire sur un plus long terme, et si le marché le veut, à un plus grand développement à la fois de l'auto-archivage institutionnel et du Gold Open Access. » Merci.
Je voudrais juste apporter à nouveau un témoignage de chercheur. La raison pour laquelle moi je suis ni sur Academia ni sur ResearchGate, c'est parce que je suis absolument. Et on est plein de collègues comme moi. Je témoigne pour une communauté. On ne supporte pas que ces outils envoient automatiquement des mails à tous les gens avec qui on a publié. C'est absolument une nuisance. J'en reçois des centaines tout le temps. Alors, clairement, moi je les mets à la poubelle, je ne réponds jamais. Mais on n'a pas le droit de faire ça aux collègues. C'est une nuisance. Un témoignage important, c'est qu'aujourd'hui, un chercheur est épuisé par la quantité de mails qu'il reçoit par jour. Ça se chiffre en plusieurs centaines. J'ai des collègues où c'est plus de 1000 par jour. Hein, ça, c'est le... Donc, il faut arrêter de nous empoisonner avec ce genre de trucs. Et il faut trouver des méthodes qui sont d'un autre type. En tous les cas, ces réseaux, moi, personnellement, je les boycotte pour ça. Alors qu'on a un système très simple. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique. Mais c'est vrai que c'est parce que je... Je suis un petit peu vieille, quoi. Disons, je mets depuis plus de 15 ans tous mes articles sur mon site web en version open et même la version publiée, parce que je considère que c'est la seule qui ait valeur scientifique, parce que c'est celle qui est en circulation officiellement. Et je suis assez contente que Google Scholar le voit très bien. Donc, au moins, n'importe qui peut savoir avoir accès à mes articles à titre. Effectivement, comme Antonin me le faisait remarquer, c'est si un autre chercheur cherche mon article précis. Effectivement, probablement Couperin et d'autres, des personnes qui voudraient moissonner de façon très, très, très large, ne vont probablement pas avoir accès à ça. Donc la solution aussi, c'est Archive, et à nouveau l'idée de déposer une fois. Donc je reconnais complètement l'idée d'avoir son site personnel, c'était à l'époque où il n'existait rien d'autre. Voyez, maintenant, il y a d'autres solutions, mais je pense qu'il faut aller vers le repository 1, où on veut, et après les autres moissonnent, et puis surtout éviter ce genre de réseaux sociaux. Un autre énorme problème avec les réseaux sociaux, ou deuxième raison pour les boycotter, c'est que s'ils marchent bien, ils sont rachetés. Hein, ça, MySciencework, je savais que j'avais intuité qu'Elsevier était là-dedans, c'était clair. Bon. Et ensuite, y a le cas de Mendeley. Mendeley, c'est une catastrophe. Donc, on doit boycotter ça. Et moi, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai des doutes avec les petites start-up. C'est-à-dire, je n'aide pas les petites start-up, sauf type Dissémine, où eux, c'est absolument non-profit. Ça n'a pas du tout la structure de start-up.
Merci. D'autres questions ou témoignages ?
Bonjour, Audrey Risser, My Science Work. Je me permets d'apporter une précision par rapport à Elsevier. On n'a pas, enfin, comment dire, effectivement, nous proposons sur la plateforme d'acheter à l'unité des publications sur Elsevier, mais on n'a pas de partenariat avec eux, on ne dépend pas d'eux, on est indépendant et voilà.
Oui, mais vous avez quand même un partenariat avec Elsevier pour Science Direct.
Pour Science Direct.
My Science Work a un partenariat avec Elsevier pour donner accès à Science Direct dans son contenu.
Oui, aux articles, mais après, on ne dépend pas d'eux. C'est juste un partenariat. Après, à côté de ça, nous sommes indépendants et les activités que nous proposons à côté ne dépend dans aucun cas de ce contrat qu'on a avec Elsevier pour la diffusion de leur publication.
Mais ça confirme ce que je disais, de la volonté des éditeurs de se rapprocher de plus en plus de ces réseaux sociaux qui sont perçus comme des outils commerciaux et financiers.
Oui, effectivement, ils profitent du fait qu'il y ait ces plateformes pour diffuser leur contenu, mais à côté de ça...
Et donc augmenter leur facteur d'impact, puisque les publications visibles dans My Science Work seront donc plus citées, etc. etc.
Après, nous proposons aussi l'accès à des publications qui sont en open access. Les deux tiers des publications qui sont disponibles sur le site le sont. Donc c'est dommage de cantonner ça au partenariat que nous avons avec Elsevier.
Bon, je ne veux pas polémiquer, mais je trouve dommage que My Science Work, qui à l'origine se présentait comme un farouche défenseur de l'open access, ait des partenariats avec Elsevier. Mais je pense que l'ensemble de la salle est un petit peu, suit un peu mon point de vue.
Oui, vous avez dit que les réseaux sociaux donc, répondent à un besoin de visibilité, de mise en relation entre les chercheurs et s'appuient sur une fonctionnalité de dépôt qui est un plus. Est-ce que vous pensez que, du coup, les dépôts institutionnels, s'ils développaient leur fonctionnalité de réseau social, pourraient, je dirais, rentrer sur le marché et répondre aux besoins des chercheurs ou pas? Ou est-ce que le fait que les dépôts institutionnels soient justement institutionnels, est-ce que ça ne va pas faire peur? Et le fait qu'ils soient nombreux et non pas un réseau unique est un frein, parce que d'une certaine façon, ce serait une forme d'indépendance que de s'asseoir sur un dispositif offert par l'institution ou un niveau plus large, le pays ou l'Europe.
Alors votre réponse a déjà des éléments. Votre question, pardon, a déjà des éléments de réponse. Alors il faut voir la question déjà à plus ou moins long terme. À court terme, il est évident que le train est déjà passé pour avoir des outils de réseautage, parce que maintenant, hein, je vous ai dit, 26 millions de comptes sur Academia, 7 millions sur ResearchGate. Voilà. La deuxième question, c'est par contre, est-ce que ces services seront viables à long terme? Est-ce que dans 5 ans, on entendra encore parler de ce genre de service, ou est-ce que d'autres n'auront pas commencé à proposer notamment des services innovants ou complémentaires, bah, typiquement des lieux de groupe, de partage de documents, ce genre de choses. Donc, après, pour en revenir à la question de HAL, l'ancrage institutionnel, un des éléments aussi qu'on entend sur les chercheurs, c'est que je vais sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas l'institution. En fait, c'est moi en tant que chercheur que je mets en valeur. Et c'est assez révélateur, par exemple, que sur Academia, votre URL de profil change au fur et à mesure que vous changez d'établissement.
Sur Zenodo, il y a une couche réseau social donc, qui existe déjà. Hein. Donc, c'est institutionnel et ça propose un réseau social.
Bien, écoutez, je vous propose de nous arrêter là. Merci beaucoup pour cette... introduction et ces commentaires très intéressants sur réseaux sociaux et open access ou free access.